Voilà, alors on va continuer. Donc ce matin, brièvement, donc j'ai fait l'introduction qui a pris pas mal de temps. Et après, j'ai abordé une première chose, c'est non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale. C'était les numéros 53 et 54. Donc n'hésitez pas à le lire. Là, je le lis pas devant vous, mais... on pourrait éventuellement le faire. Mais vous entendez ou pas? Ça va? Alors, donc, on continue. C'était que le premier défi. On en aurait six, mais comme je ne sais pas quoi dire sur les six autres, un petit peu quand même. Alors, le deuxième défi, la deuxième chose qu'évoque le pape, au numéro 57 et 58, non, 55 et 56, c'est non à la nouvelle idolâtrie de l'argent. Ah, du coup, il parle de la relation avec l'argent. Alors, du coup, ça peut être l'occasion d'en parler un petit peu. Encore une fois, Jésus en parle assez souvent dans l'Évangile. Il ne dit pas que c'est mal d'en avoir. Mais après, c'est plutôt ce qu'on en fait. Et alors, j'aime bien la parabole de l'intendant malhonnête. Vous vous rappelez tous de cette parabole? Alors, dans Saint-Luc, il en parle particulièrement souvent, notamment pendant tout le chapitre 16 de Saint-Luc. Et là, elle introduit le chapitre 16, cette parabole. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Et alors donc, il essaie de trouver ceux qui doivent, et il leur dit « Bah, au lieu de 50, tu écris 25, ou enfin, ce n'est pas exactement les chiffres, mais voilà. » Pourquoi? Parce qu'il veut trouver des gens pour l'accueillir. Hein, parce qu'il ne se voit pas aller travailler la terre, etc. C'est trop fatigant. Alors, bien sûr, Jésus ne loue pas sa paresse ou a fortiori sa malhonnêteté. Mais du coup, ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que justement l'argent sert à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il se fait des amis avec l'argent. Alors bon, on ne se fait pas non plus des amis avec l'argent, enfin il y a d'autres... Mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est que l'argent, au lieu d'être un but, ça devient un moyen. On dit d'ailleurs qu'on a les moyens, on ne dit pas qu'on a le but, quand on a des sous. Ah tiens, lui, il a les moyens, parce que l'argent, ça doit rester un moyen. Et quand le pape François dit non à la nouvelle idolâtrie de l'argent, c'est l'argent qui n'est plus un moyen, mais qui est presque une finalité, un but. C'est une idole, il a pris la place de Dieu. Alors c'est pas par hasard qu'il y a l'adoration du veau d'or hein, avec Moïse, enfin, pendant qu'il est en train de recevoir l'étape de la loi, donc ils se font une statue du veau d'or, ils se prosternent devant. Mais le veau d'or, c'est pas simplement à l'époque de Moïse, ça peut être aussi aujourd'hui d'une manière assez concrète, les gens préfèrent peut-être aller faire des courses le dimanche qu'aller à l'église. Alors bon, il faut mettre quelques bémols parce que c'est pas pour autant qu'ils adorent l'argent, peut-être qu'ils n'ont pas le temps en semaine, voilà. Mais ceci dit, quelquefois, il y a le temple de la consommation qui a peut-être qui s'est substitué au temple du bon Dieu. Alors à la suite de cette parabole, Jésus dit « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête ou l'argent trompeur. » Et alors, je me suis dit que j'aurais pu reprendre quelques éléments qui font que l'argent est trompeur. Parce que l'argent est trompeur de différentes manières. Il est trompeur parce que, quelquefois, on met un peu notre sécurité dans l'argent. Et c'est vrai, quand on n'a pas d'argent, ben on peut être assez angoissé, ça c'est vrai. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on sera forcément en paix. Et l'argent, a priori, c'est pour notre temps sur la terre. Pour l'éternité, ça ne nous servira pas beaucoup. Vous connaissez l'histoire du monsieur qui avait beaucoup d'argent et... Alors, c'est un monsieur qui a pas mal d'argent et puis il veut être enterré avec son argent. Alors, sa femme, en plus, elle est un peu mauvaise parce qu'elle dit « Avec quoi je vais vivre, moi, pendant... C'est bien beau, mais... » Et alors... Mais heureusement, ils ont des enfants et il y a un fils qui dit « T'inquiète pas, maman, j'ai une idée. Papa possédait combien ?»« 3 milliards, mettons, voilà. Ben, fais un chèque et puis, voilà. Et tu mets le chèque avec tout, dans son cercueil. Il a tout son argent avec lui. Bon, il n'ira pas beaucoup toucher le chèque, mais... voilà, donc ils ont pu détourner... Voilà, alors en tout cas, l'argent comme qui nous donne l'illusion d'être en sécurité. Il y a une parabole de Jésus, de celui qui veut construire des greniers plus grands, etc. Mais qui l'aura, hein, si tu. Voilà. L'argent aussi qui est trompeur parce qu'il nous maintient, il nous emprisonne un peu dans les choses matérielles. Quelquefois, bon, on est bien content d'avoir de l'argent. Mais quelquefois, quand on a des biens, on est un peu embarrassé parce qu'il faut les gérer, il faut les protéger quelquefois. De ce point de vue-là, certaines personnes qui ont moins ont l'esprit beaucoup plus libre que ceux qui ont pas mal de biens. Parce que, sans parler des familles où on se divise au moment de l'héritage, etc. Mais du coup, l'argent qui nous accapare quand même pas mal l'esprit. Alors là encore, il ne s'agit pas de jeter la pierre à ceux justement qui ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois et qui ça leur occupe l'esprit, ça c'est normal. Mais quelquefois, peut-être, nous, si ça nous occupe trop l'esprit, on peut y être attentif pour voir si l'argent n'a pas pris un peu la place de Dieu d'une certaine manière, même si on ne le dirait pas tel quel. L'argent aussi qui se présente comme une fin à atteindre alors qu'il n'est qu'un moyen, je l'ai déjà évoqué. L'argent qui prend le dessus sur la communion. Alors j'ai apporté ici, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà lu par cœur, si vous le connaissez. Compendium de la doctrine sociale de l'Église. Alors, parmi les principes, il y a un chapitre avec les différents principes de la doctrine sociale de l'Église. Et le troisième, c'est la destination universelle des biens. Je ne sais pas si ça vous est très familier, ça c'est classique dans la pensée de l'Église, que nos biens, ils ne sont pas faits seulement pour nous tout seuls. Alors, l'Église soutient le bien fondé de la propriété privée, hein, l'Église n'est pas contre la propriété privée, mais la propriété privée n'est jamais un absolu. Si, par exemple, saint Thomas d'Aquin dit que si quelqu'un est affamé et que voilà, il passe à côté d'un verger où il y a plein de fruits, s'il prend un fruit, c'est pas du vol. Donc, ça fait partie de ce que l'Église appelle la destination universelle des biens. Donc la propriété privée n'est jamais un absolu. L'argent aussi est trompeur parce que quelquefois l'avoir prend la place de l'être. Alors, par exemple, le fils prodigue, en un sens, quand il a dilapidé tous ses avoirs, hein, son avoir, et il n'a plus rien, mais il revient, et il découvre qu'il est fils. À ce moment-là. Mais voilà, tant qu'il était dans ses avoirs, la relation avec son père est passée au deuxième plan. Il avait plus le regard sur ce qu'il pouvait avoir que sur l'être. L'argent est trompeur aussi dans le sens où il peut prendre la place de Dieu, c'est ce qu'on évoquait avec le veau d'or. Et quand Jésus dit « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent », Le mot servir, c'est un mot assez fort, hein, puisque c'est un sens religieux. Quand les Hébreux sortent d'Égypte, c'est pour aller servir Dieu. Hein, et au centrique, il n'y a que Dieu qu'on peut vraiment servir, dans le sens où le service de Dieu ne nous asservit pas. Il y a un petit livre qui avait paru il y a déjà pas mal d'années, c'est de l'esclavage au service, pour montrer que l'Exode, c'est pas tant de l'esclavage à la liberté comme enfin, faire tout ce qui me passe par la tête, mais du coup, c'est plutôt passer d'un esclavage au fait de servir. C'est ça le passage de l'Exode. Et dans notre vie, le sommet, c'est pas une liberté égoïste, c'est le fait de servir finalement, et c'est ce que Jésus nous enseigne aussi. Mais du coup, pour revenir à l'argent, ben, quelquefois justement, l'argent devient une idole, comme le dit le pape François, et du coup, il n'est plus à notre service, mais c'est nous qui nous mettons à son service en quelque sorte. Ça, donc je vais plus vite, vous voyez, c'était les paragraphes 55-56. Après, toujours un peu dans le même thème, le pape parle de non à l'argent qui gouverne au lieu de servir. C'est les paragraphes 57 et 58. Et dans ces paragraphes, le pape parle en particulier justement de l'importance d'une éthique dans la finance. Alors, je ne suis pas très compétent en la matière, mais du coup, j'ai essayé de regarder quand même un petit peu ce qui se faisait. Alors, il y a des tas de choses qui se font diverses et variées. Il y a la microfinance, le microcrédit, la finance solidaire, la banque éthique, l'investissement socialement responsable. Il y a aussi ce qu'on appelle, ça m'a intéressé, ce qu'on appelle la finance catholique. Je ne sais pas si vous connaissiez ça, la finance catholique. Alors, je vais vous dire. À vrai dire, ce n'est pas si vieux que ça. Hein. Le texte le plus récent et le plus abouti est la charte fondamentale de la finance éthique chrétienne. Elle a été publiée le 15 août 2015 à Paris par l'Observatoire de la finance chrétienne et rédigée par des laïcs financiers, juristes, universitaires européens. Donc ils essaient de voir, d'analyser les principes comme le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Ils donnent avant tout des principes, ils ne rentrent pas forcément dans tous les détails de la vie, parce que ce n'est pas toujours simple, mais qui nous donnent quand même quelques principes justement pour l'usage, pour la finance. Alors, je vois là, quelques principes sur le long terme. Regardez ce que ça fait sur le long terme, sur la protection de la biodiversité, sur la défense des libertés fondamentales, sur la bonne gouvernance. Alors, si ça vous intéresse de vous plonger, je pourrais vous donner des références un peu plus précises. Mais il y a des choses quand même qui existent. On n'est pas tout seul. Et selon nos responsabilités, on peut quelquefois s'inspirer de telle ou telle chose, parce que c'est des domaines aussi assez complexes. Mais on a besoin de... Les entreprises, pour tourner, elles ont besoin de sous aussi. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qui est moral ou pas moral? Alors, le pape dit, voilà, souvent il y a un refus de l'éthique et un refus de Dieu. On veut gérer l'argent comme bon nous semble, mais sans aucune éthique. Alors, Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce point. Après, un autre défi, c'est non à la disparité sociale qui engendre la violence. C'est les numéros 59 et 60. Est-ce que vous savez comment se déclenchent les orages ? Alors, je ne suis pas très... Vous savez, non ? Mais je crois qu'il faut qu'il y ait une rencontre d'une masse d'air chaud et d'une masse d'air froid. Et alors, mais c'est c'est la différence entre les deux qui fait que ça, à un certain moment, ça claque. Mais la disparité sociale, c'est un peu ça aussi. Quand il y a des différences trop grandes, à un certain moment, ça claque. Pour dire les choses un peu différemment, quand il y a des injustices trop grandes, ça claque tôt ou tard. Et alors, dans les messages, vous savez que le pape, tous les ans, pour le 1er janvier, donne un message pour la paix. Et assez fréquemment, il est question, justement, du lien entre la justice et la paix. Et donc, sans justice, il n'y a pas de paix possible, pas de paix durable, en tout cas. Alors, d'une certaine manière, c'est un peu ça que développe le pape François dans ses numéros 59 et 60. Mais du coup, je vais juste souligner ce lien entre la justice et la paix. Voilà un extrait d'un message de Jean-Paul II. C'était pour la journée de la paix du 1er janvier 2002. Alors, dans ce message, il est très très intéressant ce message, notamment pour le rapport entre la justice et le pardon. Mais là, maintenant, ce n'est pas l'objet de mais par rapport à cette année jubilaire, etc., c'est intéressant de travailler ce lien entre la justice et le pardon, puisque ça ne s'oppose pas, le pardon et la justice, mais voir un peu comment ça s'articule l'un et l'autre. Mais là, donc, dans ce message aussi, il parle de la paix. Et voilà ce que dit le pape Jean-Paul II. « La véritable paix est en réalité œuvre de la justice. » C'est une citation d'Isaïe. Comme l'a affirmé le Concile Vatican II, la paix est le fruit d'un ordre qui a été implanté dans la société humaine par son divin fondateur et qui doit être mené à la réalisation par des hommes aspirant sans cesse à une justice plus parfaite. Depuis plus de 15 siècles, dans l'Église catholique, retentit l'enseignement d'Augustin d'Hippone, saint Augustin, qui nous a rappelé que la paix qu'il faut viser avec la coopération de tous consiste dans la tranquillitas ordinis, dans la tranquillité de l'ordre. La vraie paix est donc le fruit de la justice, vertu morale et garantie légale qui veille sur le plein respect des droits et des devoirs et sur la répartition équitable des profits et des charges. Alors ça, c'est vrai au niveau international, c'est vrai, mais ça peut être vrai au sein de la famille et au sein d'une communauté. Quelquefois, quand il y a des injustices, ben, on peut pacifier les choses comme ça et arrêter de se taper dessus pour un moment, mais il faut s'attaquer aux racines des problèmes. Et les racines des problèmes, c'est souvent au niveau des injustices, quand même. Et alors, dans cette perspective, le pape Benoît XVI, 10 ans après Jean-Paul II, pour le message de la paix... de 2012, entre autres, il y avait d'autres éléments dans son message, mais il insistait pour éduquer les jeunes à la justice. Et il insistait sur le fait que la justice, c'était pas simplement rendre à chacun ses droits et ses devoirs, comme si c'était une conception un peu contractuelle, où on se met d'accord, ça, c'est typique de Benoît XVI. Il disait, c'est important de voir l'origine transcendante, c'est-à-dire de voir en Dieu. Je le cite, ça sera mieux dit que ce que je pourrais vous dire. La justice n'est pas une simple convention humaine, car ce qui est juste n'est pas déterminé originairement par la loi positive, mais par l'identité profonde de l'être humain. Alors, le pape Benoît XVI enracine beaucoup la justice dans la vérité des choses. Ce n'est pas simplement une convention entre deux personnes. On voit bien que le plus astucieux s'arrange pour que ça soit en sa faveur. Alors, il y a peut-être une convention qui est signée, mais qui peut-être est complètement injuste. Il y a toujours un enracinement dans la justice. Ce n'est pas une justice arbitraire, autrement dit. Et pour qu'il y ait la paix, il faut que ce soit justement pas une justice arbitraire, mais une justice vraiment fondée sur la vérité des choses, la vérité des relations. Quand on voit quelque part dans la société, elle crée des situations d'injustice, la société. Et alors il ne faut pas s'étonner si après il y a de la violence. Quand il y avait une mobilisation autour du mariage, c'était aussi pour que ça soit une forme de justice. On ne veut pas assimiler au mariage l'union de deux personnes du même sexe. Alors après, il ne s'agit pas de les chasser, de les humilier, ce n'est pas ça. Mais on ne peut pas parler du mariage, sinon on crée une source d'injustice qui, tôt ou tard, est une source de violence. Le pape François parle dans son document, il parle notamment de la disparité sociale qui engendre la violence. Alors d'une part parce qu'il y a une injustice, mais d'autre part aussi, il parle beaucoup de la consommation. Je n'ai pas descendu ici son encyclique sur l'écologie, mais il nous invite dans son encyclique à une certaine sobriété. Alors c'est un mot auquel on n'est peut-être plus très habitué avec notre société de consommation, mais si certains consomment et jettent beaucoup de nourriture parce qu'ils ont plus que ce qu'il faut, mais il ne faut pas s'étonner aussi que ceux qui ne consomment pas, qui n'ont pas le nécessaire, se sentent lésés et réagissent avec violence. Alors, je vous recite encore Benoît XVI. La paix n'est pas seulement absence de guerre. Alors, c'est qui cite le catéchisme de l'Église catholique, d'ailleurs. La paix n'est pas seulement absence de guerre, et elle ne se borne pas à assurer l'équilibre des forces adverses. La paix ne peut s'obtenir sur Terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples, la pratique assidue de la fraternité. La paix est un fruit de la justice et un effet de la charité. La paix pour tous née de la justice de chacun. Voilà, alors ça c'est un autre paragraphe, non à la disparité sociale qui engendre la violence, c'est paragraphe 59-60. Après, cinquièmement, le pape aborde quelques défis culturels dans les numéros 61 à 67. Et dans les défis culturels, je ne vais pas les prendre tous, mais il parle notamment du relativisme. Alors, le relativisme, c'était un cheval de bataille du pape Benoît XVI. Dans l'homélie qu'il avait prononcée avant d'être élu pape, il parlait de la dictature du relativisme. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est que le relativisme. Je ne suis pas un spécialiste, mais alors, déjà, il y a des relativismes à différents niveaux. Il y a un relativisme moral, il y a un relativisme au niveau des idées, il y a un relativisme au niveau culturel. Mais ce qu'il y a un peu en commun, c'est que tous les points de vue auraient la même valeur. Et finalement, il y a le relativisme met un peu la vérité entre parenthèses. Pour lui, il n'y a pas vraiment de vérité ultime. À chacun un peu sa vérité. Il n'y a pas de référence absolue. Alors pour nous chrétiens, le relativisme, ça ne peut pas tenir. Parce que y a une vérité déjà dans la création, dans l'ordre de la création, et puis il y a une vérité qui nous est révélée. C'est le document qui avait été rédigé, je ne sais plus en quelle année, mais foi et raison fidèle, cette ration. C'était Jean-Paul II, oui. Et alors, sous prétexte de tolérance, etc., du coup, on élude un peu la question de la vérité. C'est ça et ça devient comme, au contraire, sous prétexte de tolérance, on devient finalement très intolérant à l'égard de ceux qui pensent connaître quelque chose de Dieu. Parce que, non, on n'a plus le droit de penser qu'il y a une vérité vraiment incontournable. Alors le relativisme ne veut pas dire le fait de lutter contre le relativisme, c'est au niveau des idées, au niveau de la morale, ne veut pas dire qu'on ne peut pas relativiser non plus certaines choses. C'est vrai qu'au niveau culturel, on peut relativiser certaines choses, mais pas sur la vérité en tant que telle. Alors, tout n'est pas à mettre au même niveau, comme le disait le pape François un peu dans sa lettre un peu avant. On ne met pas tout au même niveau. Il y a des choses qui peuvent se discuter dans notre... qui ne sont pas des choses définies de façon dogmatique. Et du coup, on arrive à une forme de morale un peu subjective. Alors ça, c'était dans certaines interventions avant le synode sur la famille, c'était assez étonnant. Pourtant, il y avait des théologiens connus qui habituellement disent des choses sensées, mais sur telle ou telle proposition, on pouvait quand même qu'être un petit peu étonné, c'est le moins qu'on puisse dire, quand finalement ils renvoyaient chacun à sa conscience. Ben non. Et encore faut-il que la conscience soit éclairée. Alors bien sûr que... alors je ne sais plus si j'ai retenu ça, à un moment je voulais évoquer cette question de la conscience, mais je ne vais peut-être pas regarder. Bien sûr que l'Église nous demande toujours de suivre notre conscience, mais elle nous demande en même temps d'éclairer notre conscience. Parce que si notre conscience est complètement faussée, objectivement, il y aura une injustice, objectivement, on va aller dans le décor quand même. Et alors, oui, donc il y avait des propositions, on laisse les divorcés remariés estimer ce qu'ils pensent être juste et puis on les laisse faire à leur idée. Non, ça c'est plus catholique ça. Alors après, de respecter leur conscience, qu'il y ait des démarches ou, comme le dit le pape François, peut-être faciliter un peu pour les déclarations de nullité, ou bon, ça c'est une autre perspective, mais on n'est pas livré simplement à sa subjectivité individuelle. Sinon, c'est nous qui devenons la mesure de toute chose, alors que justement, derrière ça, c'est pas nous qui maîtrisons tout, c'est pas nous qui décidons tout, il y a une vérité qui nous précède. Voilà, alors ça fait partie des défis culturels qu'évoque le pape François, donc le relativisme. Un autre défi culturel, c'est la tentation de l'apparence extérieure. Alors voilà ce que dit le pape François. Dans la culture dominante, la première place est occupée par ce qui est extérieur, immédiat, visible, rapide, superficiel, provisoire. Et là aussi, Donc c'est un défi. Encore une fois, le pape François dit pas ça pour se lamenter puis pleurer. Mais voilà. Alors, et nous, on absorbe les microbes. Hein, c'est comme quand il y a un rhume qui circule. Ben voilà. Alors, mais ça, c'est aussi des microbes qu'on absorbe. Hein, c'est différentes choses. L'extérieur, l'immédiat, le visible, le rapide, le superficiel, le provisoire. On est touché par ça aussi. Alors, comment nous réagir par rapport à ça? Bon, déjà, peut-être en privilégiant la vie intérieure, en donnant le temps au temps. Je vois que dans la vie communautaire, il faut apprendre la patience aussi. Et qu'on fait plus avec la patience qu'en s'énervant et en brusquant les choses. Alors, tout à l'heure, on l'a évoqué à propos du discernement. Il y a besoin de temps pour discerner certaines choses. Le temps est incontournable. Alors aujourd'hui, on a un peu de mal avec le temps, et voilà, mais c'est comme ça dans la nature. La nature peut nous enseigner à ce niveau-là. Il faut que ça mûrisse, il faut, voilà. Parmi les défis, toujours culturels, toujours dans ces mêmes numéros, ça c'est dans le numéro 63, le pape parle du fondamentalisme. Alors le pape en a encore parlé quand il est revenu d'Afrique, en disant que le fondamentalisme était une maladie de toutes les religions. Pour pas dire, bon, les musulmans en ont l'exclusivité, non. Nous aussi, dans l'Église catholique, on peut avoir du fondamentalisme. Alors, il y avait un article assez intéressant là-dessus pour... peut-être pour revenir d'abord sur un peu qu'est-ce qu'on appelle comme le fondamentalisme, on a tendance à toujours revenir aux origines, mais du coup on peut avoir un peu peur des changements culturels, etc., Et alors, du coup, on essaie de revenir toujours à avant. Et alors, donc, il y avait justement une interview sur le fondamentalisme, parce qu'à un moment, notamment chez les protestants, il y avait ce désir de revenir à la lecture sola scriptura, le principe des... voilà, on revient à ce que dit l'Écriture. Et du coup, à court-circuiter la tradition. Mais en fait, la tradition, c'est aussi quelque chose de vivant. Ce n'est pas la tradition d'avant. La tradition, c'est la parole de Dieu qui est portée par l'Église. Et encore aujourd'hui, la tradition continue. C'est pas un arbre mort qui est desséché. La tradition, elle continue à avoir des branches et des feuilles. Mais si la tradition commence à se figer, à se scléroser, à ce moment-là, ça devient du fondamentalisme. Bon, alors, il n'y en a pas que chez les catholiques, hein, du fondamentalisme, ni les musulmans, il y a chez les protestants, il y a chez les bouddhistes, enfin bon. Un autre élément encore, toujours dans les défis culturels, c'est une spiritualité sans Dieu. Que je reprenne ce que dit le pape. Je peux vous dire ça. Quelques-uns tendant au fondamentalisme et d'autres qui semblent proposer une spiritualité sans Dieu. Alors je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus parce que je trouve que c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous savez que... pour être précis, le 6 janvier 2013 a été célébré en l'église de Saint Paul Road à Londres le premier office de l'église athée. Vous connaissez
ils arrivent comme si c'était des messes, et puis ils font un simulacre.
C'est ça. Alors, c'est deux comédiens qui ont. Et leur objectif, c'est partager toutes les choses positives que l'on peut partager en tant que communauté religieuse, toutes ces choses qui font de nous des personnes meilleures, mais sans que Dieu soit impliqué. Et alors, c'est intéressant parce qu'en même temps, on baigne un petit peu quand même dans cette ambiance, qu'on le veuille ou non, et ça peut nous toucher, hein, moi en premier. Alors, voilà. Alors, donc, il parle de laïc, mais c'est pas. Au point de départ, laïc ne veut pas dire athée. Alors, c'est une mystique sans transcendance, des églises sans Dieu, des méditations ou des prières pour maîtriser son stress ou renforcer la confiance en soi. Mais finalement, c'est très centré sur soi quelque part. Et du coup, c'est la difficulté à se confronter avec quelqu'un qui nous dépasse. Alors, c'est un article assez intéressant quand même. Et alors, du coup, il donne trois éléments. Parce qu'il y a aussi un philosophe, un français, André Comte-Sponville, qui a publié un livre en 2006, L'esprit de l'athéisme. L'esprit avec un grand E. L'esprit de l'athéisme. Alors, je peux vous en citer quelque chose. Oui, il y présentait sa conception de la spiritualité. Une partie de notre vie intérieure ayant un rapport avec l'absolu, l'infini ou l'éternité. Selon le philosophe, c'est cette ouverture sur l'absolu que la métaphysique pense et que la spiritualité expérimente. Et pour cela, nul besoin de Dieu, d'église, de textes sacrés ni de prières, mais d'une expérience forcément singulière et intime de la contemplation de l'immensité, pouvant aller jusqu'au sentiment océanique de dissolution de soi, une sensation d'éternité. Alors voilà ce qu'en pense Fabrice Hadjadj. Je prononce pas bien son nom, vous me pardonnez. Il y a trop de consonnes, je sais plus comment faire moi. Alors, donc il voit dans cette religion-là, athée, si on peut dire, une religion de l'informe, du vague et du supermarché, où chacun va se fabriquer sa petite idole en piochant ça et là, au lieu d'être interpellé par quelque chose qui le dépasse. Chacun choisit ce qui lui est utile, la détente physique, l'apaisement des émotions, la dissolution de l'ego dans le grand tout. Et c'est le contraire d'un appel qui vient nous bousculer, nous dérouter de notre projet, le contraire d'un abandon à une altérité. Je trouve ça assez intéressant quand même comme. Pardon? Ah oui, il a plus d'un tour dans son sac. Voilà, alors c'est l'expérience de l'infini, c'est aussi une recherche solitaire. Alors là, c'est Jacques Arène, je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu, il a écrit des choses intéressantes. Et alors, il voit dans le succès de la spiritualité athée une marque de grande défiance à l'égard du danger religieux, mais aussi une réponse à l'injonction sociale contemporaine. Chacun doit donner du sens à sa vie, comprendre à sa façon, selon ses envies et ses besoins. Autrement dit, seul. Et du coup, finalement, ceux qui s'engagent dans cette voie se retrouvent tout seuls. Tandis que justement, dans la spiritualité chrétienne, alors on est en relation avec le tout autre, hein, l'altérité, là, qui nous bouscule, qui nous. Voilà, c'est pas nous qui maîtrisons les choses, c'est quelqu'un d'autre qui nous conduit. Mais en même temps, aussi, un deuxième élément, c'est qu'on est relié à une communauté. On n'est pas tout seul dans la foi chrétienne. Mais, enfin, je vais pas prolonger trop là-dessus. Il y a un jésuite qui. Un des critères, justement, pour voir si on est bien, pas dans une spiritualité sans Dieu, c'est aussi que l'expérience chrétienne est une expérience personnalisante. Dans le sens où c'est pas un Dieu impersonnel avec qui on a un lien. Et nous aussi, on n'est pas, on se dissout pas dans le grand tout, mais on devient vraiment soi-même dans la relation avec une personne divine. Le pape dans ce chapitre, quand il parle de ces formes de religiosité, on va les appeler comme ça, ou je sais pas quoi, il dit ben, quelquefois peut-être il y a un vide aussi qu'on a créé, ou peut-être les gens ne seront pas sentis accueillis chez nous. Alors du coup, il y revient à diverses reprises, c'est un peu un. Ça revient souvent chez lui, je vous le cite. Il faut reconnaître que si une partie des personnes baptisées ne fait pas l'expérience de sa propre appartenance à l'Église, cela est peut-être dû à certaines structures et à un climat peu accueillant dans quelques-unes de nos paroisses et communautés, ou à une attitude bureaucratique pour répondre aux problèmes simples ou complexes de la vie de nos peuples. En beaucoup d'endroits, il y a une prédominance de l'aspect administratif sur l'aspect pastoral, comme aussi une sacramentalisation sans autre forme d'évangélisation. Ça, c'est quelque chose sur lequel revient souvent le pape François, justement, sur le fait d'accueillir les personnes. Dans notre diocèse, il y a un certain nombre de paroisses, il y avait un petit questionnaire qui circulait. Et il fallait questionner les gens qui ne fréquentaient pas habituellement l'Église pour savoir un peu ce qu'ils pensaient. Un des éléments qui revenait, en tout cas, c'est que les gens désirent pouvoir être accueillis sans se sentir jugés, sans se sentir tout de suite catalogués, et mettre d'abord vraiment accueillis. Alors, ça donnait des indications après pour essayer de s'améliorer, pour accueillir les gens. Alors, il est question de l'individualisme, des défis de l'inculturation de la foi. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec la question de l'inculturation. C'est aussi accueillir ce qui, dans une culture donnée, est tout à fait acceptable. Un exemple pour ça, c'était Matteo Ricci en Chine, quand il allait évangéliser la Chine. Il avait souci de comprendre aussi ce qu'il pouvait y avoir de bon et qui pouvait être assumé par la religion chrétienne, plutôt que d'importer aussi toute notre culture occidentale directement en Chine, ce qui ne marchait pas de toute façon, mais de voir comment, dans leur culture, comment les rejoindre à travers leur culture. Ça demande un vrai travail qui n'est pas toujours très simple.
Mais... C'est ce qui s'est passé un peu dans
l'œcuménisme. Oui, alors d'une autre manière. C'est un peu différent, ça. Mais effectivement, il ne s'agit pas de se perdre non plus, c'est de discerner ce qui... Oui, ce qui peut vous faire avancer. Alors, dans l'œcuménisme, c'est un peu différent parce que... C'est pas une culture en tant que telle, mais c'est vrai qu'il y a pour une part, il y a un effort commun qui est de comprendre l'autre et de retenir ce qui est tout à fait légitime dans ce que l'autre peut dire. Alors là, je sèche un peu sur les défis des cultures urbaines. Alors le pape François, lui, il a vécu à Buenos Aires, pas mal. Alors là, mais c'est assez intéressant quand même de voir aussi son souci de rejoindre des gens avec des problématiques un peu variées. Alors, en Amérique latine, c'est sans doute beaucoup plus fort qu'en France, cet aspect du défi des cultures urbaines, parce que La population vit beaucoup dans des grandes villes en Argentine et puis à la campagne, il n'y a pas grand monde. Tandis qu'en France, c'est un peu différent, il y a pas mal de villes moyennes ou petites. En Argentine, c'est la concentration dans les grandes villes, c'est quand même très, très fort. Plus de la moitié de la population vit dans les grandes villes, ou les deux tiers de la population, je ne sais pas, mais quand même, voilà. Alors, je vous laisse du temps, du coup, pour poser quelques questions. C'est vrai que, alors quand il parlait d'une religion sans, d'une spiritualité sans Dieu, quelque part il l'opposait un peu au fondamentalisme, quelque part on déracine complètement la spiritualité de son terreau, qui est d'abord de Dieu. Alors dans la Bible, pour ça, il y a des éléments bien concrets. Alors c'est vrai qu'il y a des genres littéraires qui ne sont pas des genres. Un genre scientifique ou journalistique. Les récits de Adam et Ève, c'est pas un récit. Le but du récit, c'est pas de décrire un événement qui s'est passé, c'est de donner la signification plutôt de.
Non, mais je comprends bien que
Oui,
vous
oui.
puissiez donner la signification de quelque chose, mais quelquefois, c'est poussé à un excès.
Oui,
On
bah,
finit
c'est
par
vrai.
désincarner la vie de foi telle que Dieu aussi a voulu nous la montrer.
Oui, alors c'est vrai qu'on passe d'un excès à un autre souvent, mais. Pour nous, ça, personnellement, en tout cas, ça m'interroge beaucoup quand, dans quelle mesure, dans le sens où ça invite à avoir une relation de plus en plus personnelle avec Jésus. Pas à rechercher d'abord les bénéfices que peut nous apporter la foi, mais d'abord chercher Dieu lui-même. Alors, il cherche quelque chose, mais comme dans toute recherche, une recherche a besoin d'être purifiée pour une part, mais on est dans le même sac hein, pour ça. Hein. Et notre recherche a besoin d'être purifiée, et quelque part, il y a quelque chose d'un peu égocentrique dans notre recherche, souvent. C'est vrai qu'on préfère se sentir bien, on préfère. C'est normal, ça. Mais bon, il ne faut pas que ce soit. Dieu se charge de purifier notre recherche. Mais. Oui, alors, oui. Il y a une recherche, certainement. Je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres aussi qui veulent poser des questions. Mais. Oui. Alors, après, il y a 50 manières de faire le yoga. Certaines personnes font juste des gestes. Mais sans entrer du tout, bon, c'est pas forcément catastrophique. Mais il y a une philosophie derrière qui est pas du tout chrétienne. Qui n'est pas du tout chrétienne. Alors après, quand on rencontre une personne, ben, il faut essayer de voir exactement ce qu'elle cherche, etc. Et essayer de lui découvrir. Mais au point de départ, les gens ne veulent pas forcément faire mal. Hein, enfin, ce n'est pas leur but. Mais on peut essayer de faire comme on peut, en tout cas, pour les éclairer, pour voir, pour qu'ils aillent plus loin, parce qu'au bout du compte, il n'y a que Jésus qui leur donnera la plénitude, mais d'une façon quelquefois un peu exigeante, parce qu'avec Jésus, il y a la croix aussi. Alors ça, on n'est pas forcément passionné par... On est tous pareils. Hein. Alors, quelque part, il y a certaines choses de l'Extrême-Orient qui peuvent nous aider à nous réapproprier des choses de notre propre foi chrétienne. L'oraison, Thérèse d'Avila, c'est une forme de méditation, mais plus au niveau du cœur. On a des trésors dans notre tradition, mais qu'on a peut-être un peu oublié. Et du coup, on va chercher chez les voisins en pensant que c'est très bien, alors qu'on a vraiment, dans notre foi chrétienne, oui, des formes de méditation, oui. Après, selon des méthodes assez diverses, hein, si vous allez voir Saint Ignace de Loyola, ne priez pas de la même façon que Thérèse d'Avila. Et voilà, il y a place pour plusieurs manières de prier, mais il y a beaucoup d'écoles de prière quand même dans... Les moines qui méditent la parole de Dieu le matin pendant pas mal de temps, et puis qui, c'est aussi pour le moment de l'oraison. Ça m'avait toujours un peu étonné qu'ils ne faisaient pas des heures d'oraison, des moines. Je me dis, ben, c'est bien la peine. Mais en fait, c'est parce que je voyais dans leur horaire, il y avait juste un quart d'heure. Alors je dis, bon, voilà. Mais seulement, c'était que le couronnement de plusieurs heures où ils méditaient la parole de Dieu, c'était le moment où ils goûtaient intérieurement ce qu'ils avaient pu découvrir de Dieu en méditant la parole de Dieu. C'était, du coup, ce n'était pas de la rêverie ou quelque chose comme ça. C'était vraiment quelque chose qui... Oui, une méditation chrétienne, bien sûr, mais avec des... Le père Caffarel aussi, alors il a un peu évolué sur tout ça, mais quand il donnait ses retraites à Tourcieux, il y avait aussi une part où comment faire participer notre corps à la prière. Il avait... Bon, parce que c'est important aussi, on n'est pas des anges, on n'est pas des incarnés, donc comment prier avec son corps. Alors après... On n'est pas africain non plus, donc on n'a peut-être pas la même aisance avec notre corps, ou voilà, mais je pense qu'il y a des... On peut, quelquefois, à travers d'autres traditions, on peut redécouvrir notre propre fond. Comme avec les protestants, mais beaucoup connaissent beaucoup mieux la parole de Dieu que nous. Alors peut-être qu'on peut apprendre certaines choses... Pour que la parole de Dieu ait plus de place dans notre vie et dans notre... On peut réapprendre, mais oui. Je vais m'arrêter là alors. Donc je ne sais pas encore si je pourrais voir Marie-Pierre, mais sinon je lui déposerai la carte tout à l'heure, si je peux la voir. On a un frère qui est opéré à Saint-Quentin après Diego.
Oh, comment on peut l'oublier ?
Ah ben je vais aller dans...
Ah oui ?
Et alors du coup je vais aller le voir tout à l'heure. Bon, j'ai oublié plein de choses. Oui, j'avais quelques livres. Il y a des livres de Jean Vanier... Vous connaissez qui sont toujours très bien. La communauté aussi, lieu du pardon et de la fête. Là-dedans, un moment, mais j'oubliais, je voulais évoquer les... Ça, c'est le petit livret qui a été fait au niveau du diocèse de Beauvais pour l'année de la miséricorde, le jubilé de la miséricorde. Donc, il y a... Et alors, il y a notamment, je l'avais pris pour ça, les... vous connaissez les œuvres de miséricorde ? Certainement. Alors, bon, il y a les œuvres corporelles, ça correspond plus ou moins à Saint Matthieu, au chapitre 25, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, etc. Puis les œuvres de miséricorde spirituelle, alors il y en a une qui fait toujours sourire. Alors, je crois que ça sera infailliblement la même. Alors, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.